La Beauce. L'enfant puni qu'on a oublié. Comme disait le préfet de la MRC, Beauce-Sartigan, M. Roy. Salut Guy, comment ça va?
Bonjour Gaston, bonjour Marc-André.
Bonjour.
Comment ça va? Ben ça va, ça va comme c'est mené, ça va comme c'est mené, hein? Ça va comme c'est mené.
C'est qui mène?
Ouais, c'est qui mène? En tout cas, moi avant-hier, j'étais devant mon téléviseur, j'attendais la conférence de presse, on est dans Beauce-Sartigan, en tout cas moi je reste à Saint-Georges jusqu'à preuve du contraire. Et puis là, il y a eu un point de presse, ça a duré quasiment une heure, puis là j'ai fini mon point de presse, puis là j'ai dit « Ouais, mais nous autres en Beauce, il se passe quoi? » Fait que là, je suis allé voir les réseaux sociaux, je suis allé sur Facebook, il y avait plein de monde de Beauce qui disait « Ouais, mais nous autres en Beauce, il se passe quoi. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que dans une conférence de presse où on doit être préparé, l'avoir préparé, parce qu'on nous disait tout le temps, hey, ça fait des jours qu'on prépare ça, qu'on n'a pas oublié une région, en tout cas ici c'est 52 000 quelque chose là, dans Beauce-Sartigan. Il y a eu d'autres régions aussi qui étaient comme nous autres.
C'est ça, il y avait le Granit, il y avait l'Outaouais.
Exactement.
Bon, il y en avait les régions.
Mais comment ça se fait que ce gouvernement-là n'a pas tout de suite, d'entrée de jeu, établi ses bases là-dessus sur une population qui, en passant, a voté pour elle.
Oui, puis en plus, qui se dit un parti qui se dit un parti des régions. Oui,
et j'aimerais ce matin féliciter nos maires, préfets, qui se sont levés debout.
Gros travail.
J'ai eu vent que M. le maire de Saint-Georges, il a brassé à la cabane pas mal. Les préfets aussi ont brassé pas mal. J'ai vu Jonathan Bolduc sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, je les félicite de s'être levés au nom de la population de la Beauce pour justement nous donner un petit peu plus l'heure juste. Là, on sait que lundi, ça va, on tombe en zone rouge.
Oui.
Alors, on passe de la petite cage à la grosse cage. On va avoir un petit peu plus de liberté. Alors, c'est toujours ça de gagner. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, j'ai vu la conférence de presse cette semaine comme un... Tu sais, aux États-Unis, quand il y a eu des annonces dans les dernières semaines, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aujourd'hui, on annonce ça, puis demain, ça s'arrête. OK? Ça niaise pas que le POC là-bas. Hein? Ici, moi, tu sais, ici, on va faire ça dans les prochains jours. Donc, dans 10 jours, le 28 mai, on va commencer à faire ça. Puis après ça, il va avoir ça telle date, puis il va avoir ça telle date. Mais on n'arrête pas de nous dire depuis le début de la pandémie qu'une semaine à une semaine, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver la semaine prochaine.
Ça peut changer, là. Ça peut changer à n'importe quel moment.
Ça peut changer n'importe quand. Alors, moi, j'ai vu ça plus comme un plan, pas un plan de déconfinement, j'ai vu ça plus comme un plan marketing politique pour établir des bases, pour rassurer. Ça, c'est mon gars de mon côté marketing en moi, parce que je trouvais que le plan ressemblait pas mal à des plans marketing que je fais pour des compagnies. Tu sais, pour rassurer les plus confineurs, là, ceux qui vraiment là, ont peur de la COVID et qui veulent pas sortir, et ceux qui le sont moins. Donc, ceux qui sont plus pour un petit peu plus de liberté. Alors, ça nous doit donner des bases, mais en même temps, j'entendais Horacio Arruda hier, notre directeur de la santé publique, dire « Oui, mais ça, c'est des dates, là, mais tu sais, ça peut changer. Là, il y a encore les variants, puis tu sais… »
Ça stresse encore les variants, lui, là.
Ça a toujours été comme ça depuis le début de cette pandémie-là. J'ai en tête le 28 jours que j'ai encore dans le fond de la gorge.
On n'a pas fini.
Il n'est pas fini, le 28 jours. Le défi 28 jours.
Le contrat moral.
Mais ce gouvernement-là gère à la pièce, à la semaine, puis voire même à la journée. Et nous présente des plans à long terme alors qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire demain.
Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, moi ce que dans cette pandémie-là, là, tu sais, oui, c'est sûr que nos députés ont peut-être pas eu beaucoup de. Ils ont eu de la visibilité pour certaines choses, mais pas dans le dossier de la COVID.
Pas beaucoup,
si on les a pas vus. Je sais qu'ils ont peut-être travaillé fort à l'interne, mais je trouve qu'on ne l'a pas su. Okay?
Mais ils ont dû se faire dire, écoutez, là. On a formé une super équipe.
Ouais, laissez-nous
on
aller
est
avec
trois,
ça.
Laissez-nous travailler
le
avec
Cerbère,
ça.
Le Cerbère. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, là, puis on n'est pas rendu au bilan, je pense, là, on n'est pas rendu au bilan de cette histoire-là. Ce que je retiens, moi, c'est que il n'y a pas d'imputabilité. C'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de commises en cours de route. Il y a eu des bons coups, il y a eu des moins bons coups. Mais les erreurs, quand il y en a eu de commises, on n'a jamais dit « on s'est trompé, on s'excuse ». On aurait dû faire ça. On a toujours essayé de camoufler une erreur en disant « moi, c'est pas ça qu'on voulait dire ». On l'a vu hier avec le ministre Dubé, là, encore hier matin, c'est avec l'histoire qui gardait, on se gardait en état d'urgence pour la convention, les conventions collectives. Puis là, finalement, hier, j'ai pas dit ça. Le rétro-pédalage, qu'on appelle.
C'est pas comme ça que je voulais le dire.
Puis, on se rappelle là, les masques au début de la pandémie. Vous ne devez pas porter de masque.
Lavez-vous les mains.
Trois semaines plus tard, vous devez porter un masque. Après ça, ben le masque en tissu. Après ça, ben non, c'est pas bon en tissu, vous allez porter un masque de procédure.
Le deux mais, masques?
Deux.
Ça a duré une semaine.
Ça a duré une semaine. Dehors, hey, vous devez vous masquer dehors. Ouais, mais tu sais, jamais on a dit, on s'est trompé, on s'excuse, on se reprend. Il y a toujours comme une vague comme ça. Puis évidemment, mêlé à travers tout ça, le fait que des médias ont peut-être pas posé toujours les questions que la population se pose, ont plutôt posé des questions sur ce que j'appelle le pire scénario qui pourrait arriver dans les prochaines semaines.
La peur. Continuer à générer de la peur, aller chercher des spécialistes générateurs de peur, parce que je veux saluer le travail d'LCN là-dedans. Tous les tas, ça finit en barnac, d'experts qui m'amènent sont tous des gens catastrophes.
Ben oui, mais c'est, tu sais pourquoi? Parce que le drame, la peur, ça vend. Puis on va se le dire, là, puis tu sais, je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas, mais les médias ont reçu 133 millions de dollars au Québec, là. 133 millions de dollars. C'est plus que n'importe où au Canada, puis pas plus qu'à peu près. Je l'ai calculé, c'est à peu près 15 $ par personne au Québec qui a été donné aux médias. Il y en a qui vont dire, oui, c'était pour aussi les aider à survivre à la crise parce qu'il y a moins de publicité que
les
ça
jette.
Les
commerces ferment.
Ouais. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que l'être humain étant ce qu'il est, tu vas-tu essayer de mordre souvent la main qui te nourrit, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi. On n'a pas vu ça dans les autres provinces. J'irai pas plus loin là-dessus, mais moi, si je mélange toute cette recette-là, là, ça goûte pas bon à la fin quand je fais cuire ça. C'est juste ça. Mais le temps va faire en sorte que dans quelques semaines, il y a des éléments sur lesquels on ne s'attardait pas dans cette crise-là, puis là, ça va commencer à se
ça va nous péter en pleine face à un moment donné.
Ça va nous péter en pleine face. Puis là, on va dire, hey, comment... Ouais, mais les complotistes avaient raison là-dedans, coudonc.
Ben, il n'y avait pas totalement raison, non, mais il n'y avait pas totalement mais faux
quand
non plus.
Quand je dis complotiste, là, je ne parle pas de ceux qui parlent du 5G puis tout ça. Je parle de ceux qui ne sont pas dans le sens du vent tout le temps puis qui se questionnent sur certaines choses qui sont arrivées pendant la pandémie. Parce qu'on les a déjà catégorisés comme ça, ces gens-là,
de toute
façon.
C'est correct de se questionner, là, mais c'est ça. C'est moi, je ne catégorise pas comme complotiste. Là. Je veux dire, tu as le droit de te poser des questions. De là, à me dire qu'il y a un 5G dans le vaccin, là, ça se peut que je te mette complotiste. Mais tu sais, tu me dis, hey, Colin, la décision du gouvernement, j'ai bien de la misère avec ça parce que je comprends pas, parce que telle affaire... Écoute, t'as le droit, là, c'est légitime de le faire. Je le fais, tu le fais, Gaston, on le fait, là.
Bon, moi, je remets en question tout ce qui est illogique.
Ben, c'est ça.
Moi, je veux comprendre. Quand j'ai appris dans ma profession antérieure que si tu veux amener un jury, 12 citoyens ordinaires, à te suivre dans ton argumentaire, t'es aussi bien d'être d'une logique irréprochable.
C'est clair.
Parce que du moment qu'il y a une faille dans ton argumentaire, ils vont se revirer de bord contre toi. Mm-hmm. Et c'est ça que moi, j'ai reproché au gouvernement, c'est qu'il y a eu tellement de changements de situation, cap, là, de cap, bon, sans jamais aucune explication scientifique. Sans jamais me faire comprendre pourquoi. Exactement. On me disait, mange ça, c'est bon pour toi.
Exactement. Et là... Je vois dans certains pays, notamment en Angleterre, il y a des scientifiques britanniques qui se sont excusés cette semaine d'avoir fait peur à la population en mettant plus que le client demandait, savez-vous pourquoi? Et ils l'ont dit, pour que les gens adhèrent davantage aux mesures. Mm. T'sais, est-ce qu'on a fait ça ici?
Oui.
Jamais qu'on a fait ça. Voyons donc,
fait,
Gaston.
Ah, pas tant que ça. Hein? C'est sûr qu'ils ont fait ça. Écoute, c'est vraiment basé sur... notre mentalité judéo-chrétienne. Qu'est-ce qui arrivait si t'écoutais pas M. le curé? L'enfer! Pour le restant de tes jours!
Oui.
Mais on avait mis le purgatoire.
Ouais, tu pouvais toujours...
Ouais, tu pouvais déroger un peu, mais...
Tu
l'as tiré au purgatoire avant, là. Ouais. On sait pas combien de temps. Et puis après ça, t'es allé au ciel.
Mais tu sais, l'après-crise, l'après-COVID, ça va ressembler à quoi pour nos commerces? Moi, j'ai tellement de peine pour tous ceux qui ont vécu. Tu sais, il y a des commerces qui en ont profité de la pandémie, on se le cachera pas, là. Que leur... Tu sais, Moi, j'essaie d'appeler des gens pour faire des rénovations chez nous. Je suis pas capable d'appeler personne. Là. Non, ça répond pas, puis c'est l'année prochaine, puis on n'a pas le matériau, puis là, le bois a augmenté, puis tout, c'est la fin du monde. Mais tu sais, il y a des commerces qui en ont arraché, notamment le secteur de la restauration. Ces gens-là se sont endettés pendant la pandémie, ont dû maintenir des infrastructures, même s'il y avait personne dedans. Quelle sera l'après-crise maintenant? On parle d'inflation actuellement. L'épicerie monte, le vin monte, tout monte. Tu sais, comment le pouvoir d'achat de l'individu, les habitudes de consommation aussi qui ont changé. Avant, on consommait... sans réfléchir, là, il y a nos... Ça fait un an, un an et demi, là, on change nos... Il y a des affaires qu'on faisait avant, on a perdu le goût, là, tu sais, on a perdu le goût de le faire. Est-ce qu'on va retomber comme avant, si facilement ça, en claquant des doigts, ou si encore, là, tu sais, on va se laisser du temps? Puis il y a également partie de la population qui a peur encore. Même si on annonce un déconfinement, là, qui... Tu sais, moi, j'en connais, là, qui vont porter le masque pour les prochaines années, là, tu sais, c'est parce que... pour eux, dans leur tête actuellement, là, il y a vraiment là encore quelque chose de très, très grave. C'est encore grave. La COVID existe, je le rappelle, ça tue des gens, ça rend des gens très malades, mais tu sais, comme dans n'importe quoi, il y a toujours des extrêmes des deux bords. Il y en a qui ne sont pas assez prudents, puis il y en a qui sont trop prudents.
Ben, c'est toujours ça.
Et moi, je reviens, quand tu parlais des restaurateurs, je reste convaincu que les restaurateurs auraient pu être un allié pour la santé publique. Je pense que les restaurateurs... avec tous les moyens et les mesures qu'ils avaient prises pour s'assurer que, un gars d'une région ne rentre pas dans leur restaurant, un gars qui était d'une région, je sais pas, extra d'urgence comme nous autres se retrouve ailleurs, avec tous les aménagements qu'ils avaient faits, les distanciations qui étaient respectées, il aurait pu faire en sorte qu'on évite des rassemblements, comme on en a vu, de gens qui se sont posés chez eux, on se fait un souper de famille, puis voilà. Mais on a, sans aucune explication scientifique, décidé qu'on les fermait. J'ai jamais su pourquoi on s'attaquait au restaurant.
Et au gym.
Au gym.
Au gym aussi. Les gyms, peut-être un petit peu plus de danger avec les gyms. Mais effectivement, les restaurants avaient déjà investi au début de la pandémie sur des plexiglas comme on a ici, sur des mesures. C'était bien fait. Hein?
Tous les restaurants que je suis allé, c'était bien suivi.
C'était très bien suivi. T'sais, mais pourquoi eux ont été victimes plus que d'autres secteurs? Et ça aussi, là, c'est dans un bilan... Puis là, on va commencer... Tu sais, moi, ce qui me frustre encore un peu, puis je le cacherai pas, le positionnement de la Fédération des chambres de commerce du Québec sur une passe vaccinale pour ces petits commerçants-là, là, moi, là, ils viennent me chercher solide, là, parce que déjà que ces gens-là l'ont eu difficile, c'est pas le temps de leur en mettre une couche de plus.
Exact.
Slacker à poulie un peu, là. Je sais qu'ils sont très connectés avec le gouvernement, puis sont bien heureux de recevoir des subventions du gouvernement, là. Puis là, ça se décline dans toutes les chambres de commerce après ça. Mais s'il vous plaît, sacrez-leur la paix un petit peu, là. Les gens vont porter le masque, s'ils ont peur. Tu sais, là, c'est arrêter les obstacles, là. Moi, je trouve ça honnêtement, là, ridicule.
Quand il viendra le temps de blâmer un mauvais travail qui a été fait, qui devait s'occuper de surveiller le respect des règles en entreprise et en commerce? La CNESST. Et où la CNESST? Elle a fait au début, vous en souviendrez, elle faisait des règles et des normes, là, c'était des cahiers. Je me souviens avoir parlé avec M. le maire à Saint-Georges qui disait on est obligé d'attendre qu'on reçoive, de recevoir les directives de la CNESST. C'était incompréhensible, ça grossissait de jour en jour. Et ils nous avaient fait part en disant, vous allez voir, la CNESST va être présente partout, va s'en va. Ils étaient où, eux autres? Ils étaient où pour empêcher la propagation dans les entreprises? Parce que chez nous, on en a eu beaucoup. Là, on pense que c'est 40% des cas qui éclataient dans notre région, particulièrement la nôtre, c'était en entreprise.
Tout à fait. Et là, il y a tout le phénomène aussi de réembaucher des employés qui s'en vient.
Moi, j'ai un client la guerre des embauches.
Qui est dans la région de Montréal, à qui j'ai parlé hier, qui me disait, écoute, ils ont bien beau nous annoncer qu'on va rouvrir, là, mais ça fait un mois que je fais des annonces parce que je le sais que ça s'en vient. J'ai aucun curriculum vitae. Ouais, j'ai fait 3 entrevues et les 3 personnes ne sont pas assez compétentes pour faire ce travail-là. Alors nous, comme entreprise, sont dans le domaine de l'hôtellerie, là, ils me laissaient sous-entendre que probablement qu'ils ne rouvriraient pas... même si on leur va leur permettre, parce qu'ils n'ont personne pour servir les clients.
Et il y a une surenchère.
Et les salaires ont augmenté.
Les employés qui ont le gros bout du bâton, ils appellent l'employeur et disent « Hey, je me suis fait offrir un job à temps de l'heure à tel restaurant. Vérifie, c'est le montant qu'ils donnent. Me le donnes-tu ou je m'en vais là-bas? »
Exact. Et le modèle d'affaires est basé sur un prix et on peut pas arriver du jour au lendemain puis dire, écoutez, le plat qui coûtait 16 $ est rendu à 26. Mm-hmm. On va perdre notre clientèle, on change de catégorie de clientèle, c'est plus la même game du tout. Alors là, c'est une cascade à prendre. Puis après ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. T'sais. Ouais. T'sais, ouais. C'est tout ça qui va décliner. T'sais. Fait que
et hier, j'entendais un psychologue, il y a d'autres choses, t'as ouvert la porte en disant ça. Là, l'après-pandémie, là, on va pouvoir, il y a des possibilités que vous puissiez retourner au travail maintenant. On s'est installé télétravail partout.
Oui.
Télétravail, il y a du monde qui ont aimé ça. Il y a des gens il y a des entreprises qui ont trouvé que leur monde était efficace là-dedans, mm-hmm. alors qu'il était craintif. Et qui ne seront pas intéressés à faire rentrer leurs employés, pour bien des raisons, alors que leurs employés sont intéressés à y retourner. Mmh. Là, il va y avoir des choses à régler là-dedans. Il y a des gens qui veulent plus travailler à la maison, qui sont tannés, qui sont écœurés. Eux autres, la maison, c'est un endroit, un refuge où on se repose. Quand tu travailles régulièrement dans ta maison, où est-ce que tu vas... Où est-ce que tu vas relaxer? Où est-ce que tu vas te dire, là, maintenant, je suis sorti du travail?
Bien, ça, là, c'est drôle, là, Gaston, là, que tu me poses cette question-là. Je suis en train de travailler une conférence là-dessus. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. J'ai fermé des bureaux, j'ai fermé des infrastructures, j'ai loué ça, j'ai passé mes employés en télétravail, j'ai déménagé en Beauce. Mm. Puis je peux vous dire une chose, là, c'est possible de le faire, mais il faut se séparer physiquement de notre maison, même dans notre maison. Mm-hmm. Je vais vous dire, là, moi, dans mes bureaux que j'ai fait chez moi, tu as l'impression que tu rentres dans un vrai bureau. Et pour mon psychologique, mon état, j'ai mis une affiche à l'entrée. c'est niaiseux. Mais moi, quand je rentre là, je suis dans mon entreprise. Mmh. Quand je sors, je suis en direction. Le corridor, moi, c'est la route. L'autoroute m'en a la maison. Mmh. Mais c'est vraiment ça. Et si on n'est pas capable de faire ça dans sa tête, ça marche pas, c'est sûr. Si on est capable, moi, je pense que le télétravail va rester. Hein, parce qu'il y en a qui ont pris goût à ça. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Et je pense qu'aussi, là, ça va désengorger. Mais en tout cas, pas à Saint-Georges. J'ai regardé dans l'Ouest ce matin. Ça désengorge pas grand-chose. Mais ça va désengorger un peu dans les grandes villes, ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est l'élément positif. En passant, il y a plus de trafic à Saint-Georges qu'il y en avait quand j'étais sur la rive sud de Montréal. Ouais. C'est quoi ça?
Guy, je vais revenir à ce que tu disais. J'ai séparé ma maison physiquement. J'ai un de mes chums qui est avocat, qui a travaillé longtemps à la maison. Et lui, il avait marqué, il avait fait comme toi. Il avait, quand il était plus au bureau, il avait marqué « fermé ».
Ah oui, ben pourquoi pas?
Il arrivait, « Ah, c'est fermé, je sais que je vais remonter en haut. » Hey, merci beaucoup, Guy. On va se reparler la semaine prochaine.
Yes, bonne journée.
Salut.